Bienvenue sur la chaîne Ambiance Architecture Urbanité, AAU.
La deuxième intervention de cette session, nous avons le plaisir d'écouter Lucile Garnier, doctorante à l'ENSA Nantes, membre de l'UMR AAU équipe Créneau, qui nous propose une intervention dont vous pouvez lire le titre sur le diapo. Des scènes contestataires de la métropolisation, expression, circulation et instrumentation. Très bien. Et instrumentation, parce qu'il y a un petit changement peut-être par rapport. Moi, j'avais noté instrumentalisation, mais instrumentation. Ah, oui, très bien. Tu as la parole, Lucile.
Bonjour tout le monde. Alors, donc pour resituer un peu d'où je vais parler avec vous aujourd'hui, je vais essayer de ne pas être trop longue. Donc moi, je suis donc en doctorat au laboratoire Créneau en quatrième année. Dans ce contexte-là, je suis en cours de finalisation de mes terrains d'enquête. Et donc avec toute cette matière recueillie, je vous propose aujourd'hui de mettre à l'épreuve la manière de les interpréter et de les... de les interpréter. Donc, je suis en doctorat sous la direction de Laurent Devim et Gilles Pinson en sciences politiques. Cette communication, elle est moins axée sur la dimension des ambiances et des esthétiques, mais je pense qu'elle rebondit aussi dessus, dans le sens où je travaille sur des mobilisations contestataires ou des mobilisations urbaines contre des projets métropolitains et plus largement contre la métropolisation. Et dans ce sens-là, j'enquête auprès d'acteurs qui prennent comme support des esthétiques métropolitaines qui jugent parfois aseptisées, etc., et qui leur permet d'agir et les pousse à l'action. Pour rappel, en introduction, le contexte de métropolisation et de métropole, c'est un contexte qui est assez flou, et assez compliqué. On peut en retenir quand même trois exceptions, notamment le fait géographique, ou en tout cas la métropole comme entité urbaine, qui serait un ensemble urbain de grande importance qui exerce des fonctions de commandement, d'organisation et d'impulsion sur une région en permettant son intégration avec le reste du monde. Et en ce sens, on considère peut-être trois formes de métropoles qui seraient à la fois les villes globales, étudiées par Saskia Sassen, des métropoles régionales et un phénomène métropolitain généralisé qui... se répandrait sur des villes de tailles différentes. Et ça nous amène à une deuxième conception de la métropolisation comme processus. Donc le phénomène de métropolisation, c'est un peu la concentration des populations, des activités et des valeurs dans des villes de plus grande taille. C'est un processus qui se perpétue et qui serait pour certains la traduction spatiale du capitalisme mondialisé et financiarisé, avec l'importance prédominante du tertiaire supérieur, notamment comme activité économique au sein de ces entités. Donc la métropolisation, c'est un processus qui touche, dans ce sens-là, les villes globales comme les plus petites d'entre elles, et qui s'impose aussi aux espaces d'entre-villes, dans le sens où, même s'il n'y a pas forcément d'activité métropolisante, il y a aussi des comportements d'habitants qui seraient poussés à se métropoliser. Cette conception-là, elle est à l'origine de l'amplification d'un certain nombre de problèmes d'aménagement, comme peut être l'étalement urbain, le manque de transport en commun, l'augmentation des nuisances environnementales, de bruit, des nuisances sonores également, et puis à l'origine aussi de formes d'injustice sociale et spatiale, comme par exemple le phénomène de gentrification ou d'éviction des classes populaires des centres urbains. Et puis enfin, ce qui se pose aussi dans le cadre français et qui ajoute du flou à cette description-là, c'est le fait qu'en France, on a des métropoles qui sont des statuts en tant qu'institution. Donc depuis la loi MAPTAM, mise en place en janvier 2005, donc il y a un nouveau statut pour les établissements publics de coopération intercommunaux, qui sont de rang supérieur, qui seraient donc des métropoles. Aujourd'hui, il y en a 21 en France. Et puis, ce phénomène-là amène à une confusion dans le sens où certaines métropoles françaises ne sont pas forcément des villes globales ou des villes des métropoles de rang supérieur, mais agit plutôt sur les acteurs publics comme l'horizon désiré des politiques urbaines et les pousse aussi à mettre en place des politiques de métropolisation. Les métropoles, dans ce cadre-là, elles sont contestées au niveau académique et on constate une polarisation un peu du débat pour et contre les métropoles dans le champ universitaire, notamment en géographie critique ou radicale, avec des auteurs comme David Darvet, qui analyse la création d'institutions métropolitaines comme le résultat d'une inflexion néolibérale de l'aménagement du territoire. D'autres critiques, comme la dénonciation d'une mythologie CAM pour compétitivité, attractivité, métropolisation, excellence, édictée par Olivier Boubaoulga et Michel Grossetti, qui traduit une manière des acteurs publics à courir aussi après l'attractivité et à l'excellence de ces politiques-là. Des travaux aussi de sociologie politique sur les effets de confiscation du débat politique par l'échelon intercommunal. Et d'autres productions, comme celle de Guillaume Faburel, qui dénonce des métropoles dites barbares. Et cette littérature académique, elle est aussi renforcée par une littérature plus militante, comme Contre Ralil de Antonio Delfini et Raphaël Snorigoudi, ou le Conseil nocturne habité contre la métropole, qui mettent en écriture des critiques face à la métropolisation, comme la course à l'attractivité, le marketing urbain, la gentrification, et remettent en cause des ambiances qui seraient des ambiances propres à des ambiances créatives, des clusters créatifs. Dénoncent aussi la financiarisation de l'immobilier. Et dans toutes ces productions-là, on retrouve quand même le fait que l'échelle du proche, du quartier et du local serait un peu un bastion de revendication contre... un lieu d'ancrage de contre-récit métropolitain, et puis le fait d'affirmer d'autres manières de produire de l'urbain et de mener des vies collectives. Face à ces productions-là, il y a donc une constatation un peu aussi dans le champ universitaire que les métropoles seraient peut-être des nouveaux totems conflictuels. Ça, c'est une proposition faite par Thomas Aguilera qui associe les luttes contre les grands projets inutiles et imposés à une centralisation de la critique envers la métropolisation. Et les grands projets inutiles et imposés, ils sont repérés notamment par un média qui s'appelle Reporter, qui en a fait une carte à l'échelle nationale. Et on peut se demander si, au même titre que Gilles Pinson, Ludovic Albert et Valérie Salapala, il pourrait y avoir l'apparition de mouvements sociaux métropolitains face à la multiplication des mobilisations contre des projets urbains, qu'ils soient grands projets inutiles à imposer ou autres. Et dans le cadre de ma thèse, moi, je me suis intéressée à des mobilisations contre des projets urbains qui seraient animés par d'autres formes d'engagement. Pas forcément axé que sur ces grands projets inutiles et imposés, mais aussi incarnés par des collectifs dans le cadre de mobilisations qui sont plus situées dans des échelles de quartier, contre des projets urbains parfois plus discrets. Et donc face à cette hypothèse de mouvements sociaux métropolitains, on peut finalement peut-être aussi pluraliser un peu la perspective et regarder d'autres mobilisations qui parfois n'énoncent pas la métropole comme enjeu et pourtant s'y opposent à travers des processus de négociation avec des acteurs métropolitains sans explicitement s'opposer à la métropole et en explorant des récits... des récits idéologiques parfois un peu compliqués à comprendre, sans par ailleurs mobiliser des régimes d'occupation, des régimes d'engagement liés à des occupations de lieux type des zones à défendre, etc. Et du coup, plutôt regarder comment la métropole agit sur les mobilisations urbaines de manière plus large et prendre en compte le fait que la métropole et la métropolisation sont à la fois des objets nouveaux, complexes et difficilement lisibles, et qu'en ce sens-là, elle peut façonner des experts militants, souvent reliés à la recherche universitaire, mais aussi à d'autres formes d'expertise, comme voilà, des acteurs qui seraient familiers avec les champs de la recherche urbaine et architecturale, ou qui seraient des professionnels de l'urbanisme ou de l'architecture et qui auraient une expertise technique à apporter à ces collectifs-là, et ou une expertise politique. Voilà, donc comme je le rappelais, il y a des groupes qui peuvent s'y opposer sans la mentionner explicitement. On peut aussi se dire que la métropole, elle agit sur un nouveau rapport d'échelle pour des contestations localisées, en permettant le passage du micro au macro, et donc d'échapper parfois au syndrome NIMBY pour certaines d'entre elles. Et du coup, peut-être gagner en légitimité en permettant l'ancrage, tout en permettant l'ancrage dans ces échelles du proche à ces contestations-là. La métropole, en tant qu'acteur qui permet de fédérer plusieurs projets urbains et comme acteur commun, met en réseau aussi des collectifs qui, du coup, appartiennent à la même entité territoriale et qui partagent des réalités spatiales qui peuvent être diverses, entre des collectifs qui viennent du périurbain ou des centres urbains en cours de gentrification, par exemple. Donc ça inspire des formes spécifiques de rencontres, de partage et de mobilisation. On peut aussi constater que l'enchevêtrement institutionnel et la multiplicité des acteurs dans les métropoles, elle démultiplie les canaux de prise de décision et renvoie à de plus en plus d'informels, donc toujours dans le fait que ces objets-là sont complexes et difficiles à lire. Voilà. Et que la contestation de ces objets, elle peut se tenir en dehors des métropoles et à l'intérieur d'elles, parfois en négociant avec des acteurs métropolitains, et donc en se familiarisant aussi avec des objets et des politiques urbaines proprement métropolitaines. Donc cette enquête, elle a été depuis janvier 2019, elle a été commencée à Nantes, puis elle a été déployée à Grenoble. Rapidement, pour faire état de cette comparaison, il ne s'agit pas pour moi de faire une comparaison terme à terme, mais plutôt de mettre en dialogue deux monographies dans lesquelles les enjeux des mobilisations se recoupent et où les acteurs traversent des expériences qui peuvent être comparables. Et ce qui a motivé cette comparaison entre ces deux agglomérations a été le fait que c'est des agglomérations qui sont a priori de taille potentiellement comparables, que les gouvernements métropolitains qui s'y déploient sont relativement distincts, là où à Nantes, la municipalité et le gouvernement métropolitain sont a priori homogénéisés. À Grenoble, il y a un conflit entre la ville-centre et la métropole. C'est aussi deux terrains ou deux sites qui ont des modèles, enfin qui ont suscité des modèles de mobilisation contre des projets urbains. On peut penser à Notre-Dame-des-Landes à Nantes, ou de démocratie locale avec la figure d'Hubert Dubedoux à Grenoble et des groupes d'action municipaux qui peuvent aussi permettre de faire circuler des choses. Que ces gouvernements métropolitains et municipaux sont assez volontaristes sur la question participative ou environnementale et peuvent s'ériger parfois en modèle, comme ça peut être le cas pour le service du dialogue citoyen à Nantes. Et donc ça me permettait aussi de rendre compte des interactions entre les politiques urbaines et les groupes mobilisés. Et puis que voilà, dans ces deux agglomérations-là, il y a des coalitions d'acteurs militants ou habitants à l'échelle métropolitaine qui se sont mis en place et qui ont fait l'objet d'observations. Donc cette enquête, elle a été guidée par une méthodologie ethnographique pour observer des aventures collectives contre des projets d'aménagement en train de se faire, et donc observer la critique en train de se faire. Ces observations renseignées dans des carnets de terrain, des comptes rendus ethnographiques, ça a été complété aussi par des entretiens avec les acteurs de ces aventures-là, ou par des parcours commentés aussi sur les lieux des mobilisations, à la fois avec les habitants et les militants, mais aussi parfois avec les acteurs techniques et politiques qui étaient en charge de ces projets-là. Et donc c'est une enquête qui a été multisituée pour suivre des acteurs par-delà les lieux disputés, aussi pour voir comment les idées et les arguments pouvaient circuler ailleurs, se transposer ailleurs, et puis parfois s'ériger en modèle localement ou autre. Et donc cette méthodologie-là, elle me permet, comme d'autres, de saisir le politique à partir de son enracinement dans l'expérience ordinaire, à la fois des personnes et des collectifs. Donc j'ai observé des soubassements politiques de l'expérience, les moments de politisation plus formelle, et puis les modalités pratiques de l'engagement politique à chaque fois annoncé. Donc là, je vais vous retracer rapidement ce qui a été les objets de mes terrains, les mobilisations de mes terrains, en se disant que le parti pris de ces enquêtes a été de démarrer par des mobilisations qui s'ancraient dans la proximité à des lieux, toujours en concevant que le fait que la proximité était aussi parfois un argument ou une possibilité de contre-récit de la métropole. Là où j'ai fait le plus d'enquêtes, donc ça a été dans auprès du collectif des Coteaux du Boishardy, qui est mobilisé dans un projet urbain plus large qui est celui du Bas-Chantenay, porté par Nantes Métropole Aménagement, qui vise la rénovation d'un ancien quartier ouvrier le long, en bord de Loire. Et qui réutilise a priori des recettes similaires à ce qui s'est passé sur l'île de Nantes en reconvoquant des acteurs, enfin une politique culturelle dans l'espace public avec et en mobilisant la compagnie des machines de Lille pour la création d'un arbre héron dans la carrière Misery. Donc ce collectif, ça a été un collectif de riverains qui se mobilise depuis 2016 pour s'opposer à ce qu'ils considèrent être les coulisses de ce projet d'arbre héron. Qui vise la densification d'un quartier par la construction donc, de 400 logements neufs par Nantes Métropole sur une friche qui est toujours utilisée comme support de jardinage collectif et qui avait vu naître des jardins ouvriers au cours du 19e siècle. Donc j'ai passé la plus grande partie de mon enquête avec ces riverains, qui composent un collectif hétérogène, dont beaucoup de membres se décrivent comme primo-militants. On a pu y repérer des engagements environnementalistes et de quartiers qui se sont manifestés majoritairement du coup, par la mise en culture de jardins collectifs en squat et l'occupation de trois maisons désormais préemptées pour l'hébergement de personnes sans-abri. Ce collectif-là, il a été souvent défini comme NIMBY par les pouvoirs publics métropolitains, mais aussi par d'autres collectifs de la place nantaise, notamment parce qu'ils ont eu du mal à s'étendre dans d'autres sphères, même si on le verra, ça a été quand même fait de manière informelle, des déconnexions avec d'autres collectifs, et aussi parce qu'ils ont opté pour la négociation et la présence des espaces participatifs ouverts par la métropole pour infléchir le projet, en parallèle de recours juridiques au tribunal administratif contre les procédures d'aménagement. Donc ça nous a permis de rendre compte, cette mobilisation, du caractère aussi processuel de la critique métropolitaine, où pour ces riverains, le fait de se confronter à des acteurs publics, aux procédures de projets urbains, au mode de gouvernance du débat démocratique à Nantes, a permis de se faire une idée et d'argumenter la contestation, et aussi d'embarquer une communauté de voisinage dans sa diversité. Je vais essayer d'aller peut-être un peu plus vite. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Ouais, ça va être compliqué. je suis désolée. Cette mobilisation, cette observation, elle s'est étendue du coup dans le quartier à la commune de Chantenay, qui a eu d'autres modes d'expression de contestation du projet du Bas-Chantenay, notamment ciblé sur l'arbre héron et la carrière Misery. Donc il y a eu pour ce collectif-là, qui est aussi un collectif de riverains, la production de livres et la production de cartes, et donc une critique plus artistique contre la gentrification du quartier et la touristification des espaces publics à Nantes. Et enfin, à Nantes, qui a aussi été un cas d'étude peut-être aussi moins sur le moins long terme, a été la mobilisation des riverains de la commune de Rezé à l'aune du confinement, du premier confinement en 2020, qui s'était mis en relation notamment avec les riverains du Boishardy, qui a permis aussi d'assister à des échanges et des circulations, des expériences de mobilisation dans une autre commune et avec d'autres mécanismes de projet. À Grenoble, quand je suis arrivée pour le terrain grenobloise qui m'a particulièrement Anima était la mobilisation contre les démolitions de logements sociaux dans le quartier politique de la ville des Villeneuve. Où là, ça a été un autre type d'acteur et d'autres types de mobilisation, mais aussi contre des projets métropolitains. Voilà, ce qui n'a pas été... ce qui a été un peu... Enfin, je suis arrivée après une contestation qui a été très active en 2019, notamment avec un référendum d'initiative citoyenne. Et l'observation s'est plutôt prolongée autour de la piscine Iris, qui est un tiers-lieu en cours de co-construction entre des associations qui étaient contre les démolitions à une période et puis les acteurs techniques métropolitains pour réinvestir une piscine Iris qui est restée vacante au cœur du quartier des Villeneuve. Et enfin, ce qui est en train de se dérouler à Grenoble actuellement et qui fait l'objet d'une observation de ma part a été le projet un collectif contre un projet de transport collectif par câble à l'ouest de Grenoble, reliant la presqu'île à des villes périphériques que sont Sassenage et Saint-Martin-le-Vinou. Voilà, et qui permet d'explorer aujourd'hui une mise en relation entre des acteurs plus radicaux liés à une sphère d'écologie radicale avec des régimes d'action spécifiques et puis des riverains de Sassenage qui, on le voit, pour l'instant se mobilisent dans le cadre d'un collectif d'habitants et donc c'est chez eux qu'on a toutes ces banderoles visible et qui, voilà, bon, c'est une mobilisation qui permet de mettre en lien des acteurs écologistes d'inspiration plus radicale avec des acteurs habitants qui n'ont pas forcément d'expérience de la mobilisation collective, donc c'est assez intéressant à observer. Dans ces deux métropoles, c'est le départ de l'observation dans ces lieux de mobilisation ancrée dans le proche a permis aussi de voir d'autres formes de mise en réseau entre des collectifs à l'échelle plus large, comme ça a été le cas avec Métropole en lutte ou le réseau d'architectes Superville à Nantes, mais aussi le collectif Lux à Grenoble, donc le collectif lutte pour un espace collectif et solidaire des espaces qui a mis en place notamment des occupations itinérantes à travers l'agglomération et qui se mobilisent aussi dans un mode d'engagement plus lié à de la réflexion et donc à des rendez-vous, des temps d'échange liés à la métropole et à la rédaction de fanzines qui sont mon objet rapporté aujourd'hui. Pour continuer aussi cette perspective un peu d'ouvrir aux mobilisations qui s'attellent à re-questionner la métropolisation dans ces communes-là. Je me suis aussi intéressée à tout ce qui est de la fédération des unions de quartier à l'échelle de la ville et de la métropole grenobloise, et donc à des collectifs qui sont des réseaux d'associations liés à des unions de quartier qui sont moins ancrées dans des choses contestataires, mais qui sont... qui font des relais d'information pour les habitants et sont aussi parfois pris en partenariat par la métropole pour animer des projets de participation. Et voilà, donc ils sont relais des habitants et ils produisent aussi de l'expertise sur les documents techniques produits par la métropole. Tout ça me permet peut-être d'explorer ce qui se passe du coup de manière un peu plus large à travers la métropole grenobloise et qui... en tout cas, ce que je voulais mettre à l'épreuve aujourd'hui, c'était le fait de regarder plus spécifiquement ce qui se passe à l'échelle donc, de scène contestataire et de proposer la notion de scène contestataire de la métropolisation comme support de réflexion. Donc là, c'est un schéma que j'avais fait pour la métropole de Grenoble, rassemblant un peu tous les acteurs qui fabriquent de la mobilisation et qui re-questionnent la métropole à l'échelle de l'agglomération grenobloise. Et donc, toutes ces mobilisations-là sont liées à des acteurs spécifiques qui peuvent donc à la fois être ancrés dans des lieux, mais aussi circuler à travers des lieux disputés ou dans des lieux qui permettent la diffusion de ces critiques-là. Donc voilà, j'ai listé une série d'acteurs qui permettent, voilà, qui reviennent aussi dans ces enjeux-là. Et bon, j'aurais peut-être pas le temps d'y revenir, mais cette notion de scène, elle permettait. Je suis désolée. De qualifier un réseau et des catégories d'acteurs, des modèles et des circulations de la critique mises en jeu par et dans les métropoles, qui nous a amené à du coup à discuter la notion de scène comme cadre analytique pour ça. Et donc la notion de scène, elle est issue des cultures, cultural studies. Et voilà, bon, peut-être qu'on pourra en parler dans la discussion, mais je me référais aussi à la méthode Skaena qui permettait de décrire un réseau d'acteurs regroupés sur un territoire présentant des configurations urbaines, sociales, économiques spécifiques qui fréquentent les mêmes lieux, les mêmes événements, partagent ou défendent les mêmes valeurs. Posture esthétique pour ce programme de recherche, mais peut-être transposé aux postures idéologiques ou politiques sur mes terrains, défendu dans des revues, des manifestes, repérés dans des symboles ou des labels. Voilà, une communauté qui, à la fois, qui est marquée par le territoire et qui permet d'en produire aussi. Voilà, donc l'ANR Skaena nous permet déjà de donner une première grille de lecture qui permet d'identifier les acteurs de ces contestations-là. Voilà. Et donc, en conclusion, pour terminer, l'enjeu de cette recherche, c'est aussi de se rendre compte de la manière dont la métropole et la métropolisation, à défaut de faire émerger peut-être des mouvements sociaux métropolitains, œuvrent à la mise en réseau de mobilisations diverses, que la notion de scène permettrait peut-être de décrire et de qualifier plus finement. Il nous reste peut-être aujourd'hui à décrire et à matérialiser ces scènes-là. Donc, comme proposition à Nantes, on pourrait se dire que les acteurs contestataires étudiés s'opposent à la métropole culturelle et attractive et à Grenoble plutôt à la métropole éco-technologique. Et que cette proposition, elle permet de rendre compte de pratiques nouvelles à l'œuvre dans les mobilisations elles-mêmes. Et qu'elle permet d'apporter des éléments sur aussi la construction de la métropole comme espace politique et surtout les processus qui permettent cette construction entre les acteurs. Je suis désolée pour ce temps que j'ai pris.
Ne sois pas désolée, hein, Lucille, tu as pas plus dépassé que les autres, hein, okay. Donc parfaite égalité de dépassement pour tous les intervenants. Okay. Merci beaucoup. Lucille, est-ce que tu, avant que je laisse la parole à la salle, est-ce que tu pourrais juste revenir sur le fanzine et peut-être, pour toi, en quoi il participe peut-être en fait de la constitution d'une scène contestataire ?
Donc le fanzine, qui est en deux versions, a été écrit et mis en route par ce collectif-là, qui a été une manière d'inviter plusieurs collectifs mobilisés à Grenoble à réfléchir ensemble sur la question de la métropole aussi pour... Donc ça a donné lieu à des rendez-vous de préparation, ça a permis de mettre à l'épreuve ces notions-là pour ces groupes-là, et ça présentait donc l'actualité de certains collectifs et de l'opposition à des projets urbains dans la métropole. Donc voilà, ça permettait de rendre tangible cette coalition d'acteurs qui se met en place.
Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions dans parmi le public. Oui.
Merci beaucoup. Côme Marchadier, chercheur associé au créneau récemment. Merci beaucoup pour ta présentation. Moi, j'aurais deux questions, en fait, si j'ai le temps. La première, ce serait d'essayer de comprendre ce que la scène... elle apporterait dans le sens où ce serait une approche conceptuelle en fait pour dire ce qui devient public dans les réseaux contestataires et du coup faire ce passage en fait de l'approche fine de l'ethnographie vers la mise en publicité dans l'espace local quoi. Et ma deuxième question, c'était, il me semblait, parce que tu proposais de t'interroger sur les interprétations de tes matériaux, il y a quelques mois, il me semble que tu bossais sur la typologie que proposait Flaminia, pas deux, des environnementalismes. Et du coup, je voulais savoir où t'en étais par rapport à ça.
Je réponds maintenant, oui. Par rapport à ta deuxième question, ce que je me rends compte, ce que me permettait la scène, c'est de rendre compte à la fois que ces acteurs-là peuvent être reliés ensemble, parfois en ayant des conceptions idéologiques ou des ancrages politiques très différents, parce qu'ils se réfèrent à un même acteur et qu'ils ont affaire à la même institution et qu'ils partagent des réseaux, des acteurs qui circulent entre ces mobilisations-là, et que ça me permettait aussi de rendre de parler de la scène au sens scène et coulisses, et donc de regarder ce qui serait de l'ordre des modèles de contestation et de ce qui serait de l'ordre de mobilisation qui serait plutôt invisibilisée ou moins regardée ou la catégorisation que les acteurs font de certaines mobilisations ou autres. Et aussi de rendre compte que voilà, peut-être les situations spatiales comme pouvait l'être par exemple le cas de Sassenage et du métro câble qui est un territoire périurbain avec un habitat pavillonnaire et certains modes de vie particuliers jouent et catégorisent ont du sens sur ce influe sur ce réseau-là, dans le sens où voilà, les acteurs qui sont issus de ce territoire sont catégorisés ou jugés à l'aune de cette inscription territoriale-là, et que du coup tout ça permet de faire jouer des catégories et de regarder ce que les acteurs en font et comment ça joue sur des mobilisations plus large. Je sais pas si j'ai... Et sur les environnementalismes, on avait utilisé ça avec Laurent du coup dans l'écriture d'un article qui était spécifiquement centré sur le premier cas que je vous ai montré sur le cas du Bois-Hardy, et qui me permettait aussi de parler, d'inscrire la mobilisation des habitants de ce quartier-là dans un courant politique, là où eux-mêmes avaient du mal parfois à le définir, dans le sens où leur attention au végétal et à l'espace naturel de la friche pouvait se transformer en orientation politique, dans le sens où des fois c'était plus infrapolitique que dit, et que les environnementalismes permettaient ça.
D'autres questions ? Oh, moi, j'en avais une. Comment tu as identifié les deux qualificatifs de la métropole contestée sur chaque terrain culturel attractif et éco-technologique ? C'est à partir des politiques urbaines mises en place ou à partir de la manière dont elles sont contestées par les différents collectifs ? Et deuxième question, est-ce que tu identifie dans les contestations déployées à Nantes et à Grenoble une critique particulière dans le cas de Nantes, de culturelle attractive avec l'invention de spatialité alternative à cette spatialité culturelle alternative, et même question pour Grenoble.
Ouais, en fait, ces qualificatifs-là, ils sont issus des mobilisations dans les deux contextes. Dans le sens où voilà, les oppositions qui sont en place dans le Bas-Chantenay s'opposent à un projet qui est la continuité d'une mise en culture des espaces urbains proposés par Nantes Métropole. Donc cet arbre héron et les machines de Lille qui réinterviennent là sont souvent convoqués dans les discours critiques pour rappeler que Nantes se définit par ces politiques publiques-là. Et donc, ça revient dans les discours de critiques. Et pareil à Grenoble, là où, par exemple, le métro-câble est un projet de transport collectif, donc un projet dans la continuité des politiques de transport en commun liées à la place écologique dans les politiques publiques à Grenoble. Et qu'elle fait suite aussi à son inscription dans ce qui se passe, à la presqu'île scientifique, au fait que ça ne peut pas être n'importe quel transport collectif, c'est un transport par câble qui nécessite beaucoup d'ingénierie. Tout ça, donc c'est des prises pour les acteurs qui leur permettent d'élaborer un discours par ailleurs sur.
Mais donc, dans les manifestations, les mobilisations, les dispositifs ou les contestations mises en place, est-ce qu'il y a une volonté de faire valoir à Grenoble une dimension écologique autre en fait que celle qui est déployée? Est-ce que c'est affiché en tant que tel ou pareil du côté de Nantes, une autre conception de la culture qui est celle affichée au niveau des politiques publiques?
Eh bien, à Grenoble, ce qui s'est déroulé récemment, ça a été la constitution suite à Grenoble Capitale Verte, à la constitution par ces acteurs-là de coordination écologiste anticapitaliste, et donc de se positionner à côté des politiques écologistes grenobloises. Et donc voilà, il y a cette coordination-là qui. Dans les faits, travaille à un autre discours sur les politiques environnementales à Grenoble. Et ça s'inscrit aussi, par ailleurs, dans le cas du métro-câble, à l'envie de ramener, par exemple, des groupes issus de l'atelier paysan ou de la Confédération paysanne pour avoir une réflexion sur les terres agricoles qui sont encore présentes à Sassenage. Donc voilà, ça participe aussi d'un autre discours sur l'écologie en ville. Et à Nantes, je pense que toutes les productions du collectif Puma, donc issu de la commune de Chantenay, permettent aussi de produire un autre discours ce que peut être la culture locale. Et notamment, donc l'aménagement de la carrière Misery avait été. Écrit dans ces productions-là, la valorisation d'une carrière sauvage et d'un aménagement qui soit lié au tiers paysage, etc., était aussi pris comme contrepoint. Et notamment, ce qui s'était passé aussi à la commune de Rezé, c'est que c'était une mobilisation qui avait été rejointe par des acteurs, des artistes, qui du coup eux-mêmes avaient une production artistique. Voilà, assez différente de ce qui pouvait être mis en place par le voyage à Nantes. Voilà.
Y a-t-il des questions? Non, très bien, merci. Nous pouvons clore donc cette deuxième session. On va applaudir Lucille.